Je tombe et je me dis, ah non, c'est pas mon sac, c'est ma jambe.
Cette semaine, c'est un champion du monde que j'accueille sur InPower. Stéphane Audet a un palmarès impressionnant. Vainqueur de 23 grands chelems, triple champion olympique, porte-drapeau des Jeux Olympiques de Tokyo, Stéphane a la mentalité de ceux qui n'abandonnent jamais.
Qui suis-je ? J'ai gagné Roland-Garros 2 fois, j'ai gagné l'US Open 2 fois, j'ai gagné 3 médailles aux Jeux Paralympiques. Mais finalement, j'ai pas inventé de vaccin, j'ai pas de prix Nobel, j'ai rien changé à l'humanité.
Ouais, mais t'as gagné 3 putains de Jeux !
Et je me dis que j'ai eu une chance incroyable.
Tu te rends compte que potentiellement, tu ne remarcheras plus.
Mais à quelques centimètres près plus à gauche, j'y passais.
C'est pour ça que tu t'es fait amputer ?
Je me dis, je peux pas laisser un chien dans cet état-là, c'est pas possible. J'avais tellement mal que j'ai décidé de me faire amputer.
Pourtant, après avoir frôlé la mort et décidé d'amputer sa jambe, Stéphane aurait pu baisser les bras. Mais il est l'exemple même que l'on peut transformer chaque épreuve en un moteur puissant.
Déjà, je considère que je ne suis pas handicapé. J'enfile ma prothèse le matin comme on enfile une paire de chaussures. Et à partir du moment où j'enfile ma prothèse, je deviens adapté. Je rêve des Jeux Olympiques. Je pense qu'on pourrait imaginer des sports qu'on pourrait pratiquer tous ensemble. Qui que tu sois, viens comme tu es. Et amusons-nous ensemble.
Petite info du jour, plus de 80% des personnes qui écoutent le podcast ne sont pas abonnées à InPower. Donc je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui prendront quelques secondes pour cliquer sur le bouton s'abonner. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Stéphane Audet.
Non, j'ai commencé à être passionné par le son assez bizarrement. Mais quand j'étais étudiant à l'école vétérinaire, j'ai un de mes colocs, on était 5 dans une coloc, qui est parti en Guyane pour faire sa thèse. C'était sur les parasites des singes. Et pour cette thèse-là, une équipe de France Culture était avec lui pour les suivre dans la forêt. Et en fait, lui nous a fait écouter les premiers sons et tu te croyais dans la forêt parce que tu avais les bruits des animaux, les bruits des insectes, les bruits de pas quand tu marches et que ça crisse sur les feuilles. Et tu avais vraiment l'impression d'y être. Et donc j'avais ça en tête. J'écoutais beaucoup. Et d'ailleurs, quand j'étais gamin, j'avais une de mes tantes qui n'écoutait que France Culture et que des voix. Et plus jeune, quand j'allais chez elle, je me disais, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle fait avec les voix? C'est insupportable, passez-moi de la musique, faites autre chose. Et peut-être que c'est une Madeleine de Proust qui est restée. Mmh. Et quand je me suis retrouvé sur mon lit d'hôpital des années plus tard, la seule chose qui m'occupait l'esprit par rapport à la douleur, c'était les voix. Et donc, je me mettais un casque. À l'époque où il n'y avait pas de podcast, où il y avait très peu de qualité finalement audio, je me mettais un casque sur les oreilles et je m'endormais comme une maman qui te raconte une histoire avec une voix. Et j'ai pris cette habitude et encore aujourd'hui, je m'endors avec des podcasts, avec des voix. Essentiellement, très peu de musique.
C'est hyper intéressant, donc c'est la force de l'habitude parce que, tu sais, c'est marrant, je ne me dirais pas qu'une voix peut être en mesure d'amoindrir la douleur.
En fait, c'est la manière dont tu vas occuper ton cerveau. Et donc, tu as besoin, quand on te conte une histoire, d'avoir un minimum de concentration, même si pour un enfant, le but, c'est finalement l'endormissement. Quand tu es un peu plus grand, et d'ailleurs, moi, ça m'arrive, quand je te dis je m'endors vraiment avec, le lendemain, j'écoute à nouveau. Je me dis, ah, mais qu'est-ce qu'elle a raconté? Comment c'est fini l'histoire? J'ai jamais la fin de l'histoire.
Mais d'ailleurs, il y a justement ce que j'ai écouté une fois dans un podcast, un enseignement qui m'a marqué, que j'essaye un peu de pratiquer, mais je crois que j'ai pas encore vraiment toutes les clés. Mais c'était un neuroscientifique qui expliquait que le meilleur moment pour avoir des idées et pour exploiter son potentiel, c'était le stade juste avant l'endormissement. Et que je crois que c'est Einstein, ou non, je sais plus quel scientifique faisait ça à chaque fois, pour trouver une équation ou pour trouver vraiment ce qui lui manquait, s'endormait, puis se réveillait, puis se réendormait, et ça m'a marqué. Je me dis, ok, il y a un pattern là, et donc parfois quand je sens que je suis un peu ensommeillée, j'essaie de me dire, ok, réfléchis à des idées et tout, mais j'ai jamais encore eu d'espèce d'eureka pendant ce laps de temps que je trouve compliqué, parce qu'en fait, si tu t'endors, comme tu le dis très bien, au réveil, tu peux ne pas t'en rappeler.
Sauf que si tu fais plus attention, et si tu notes le matin, tu vas voir, il y a un adage qui dit que tu t'endors avec un problème et que tu te réveilles avec une solution, en fait, ça marche. Et c'est une technique qui a été éprouvée, donc les neuroscientifiques ont travaillé sur le sujet, mais les sportifs le font. Quand on parle de visualisation, on visualise quelque chose qu'on va bientôt faire. Et en fait, on est en train de conditionner notre cerveau de telle sorte que le corps, par la suite, puisse faire le geste. Et ça marche super bien. Et donc, au début, moi, j'ai commencé, je jouais au golf, et j'ai découvert cet univers où les golfeurs sont vraiment typiques pour cet exemple, parce que tu les vois, avant chaque coup, mimer le coup, comme s'ils étaient en train de voir la balle qui allait dans le trou, et c'est le cas. Donc, tu t'imagines un truc, tu le fais. Et la veille, souvent, on fait une reconnaissance du parcours, Donc on prend des repères, et puis le soir, ou comme un skieur, avant la descente, tu le vois en train de bouger dans tous les sens, et il est en train de se dire, ok, là je vais tourner à droite, là je vais tourner à gauche, là je me mets comme si, attention, il y a une bosse qui est là. Donc il visualise ce qu'il va faire, ce qui permet au cerveau d'être parfaitement prêt pour qu'ensuite le corps l'applique. Et donc moi j'ai commencé cette technique, et en fait, grâce à cette technique, où de la même manière, t'as une visualisation, mais je m'endormais, je finissais par m'endormir. Il m'est arrivé de vivre la totalité du parcours par la suite et donc à jouer à ce jeu à l'époque où en plus j'étais, on va dire, récemment divorcé et célibataire endurci. Je rêvais d'un truc le soir, de ce que je voulais, et j'allais le vivre pendant la nuit. Et donc c'est assez magique, je racontais à mes enfants.
Donc tu contrôlais tes rêves finalement.
Quelque part tu contrôles tes rêves et c'est ça qui est fabuleux, c'est que tu les induis. Alors, tu les contrôles pas, mais tu les induis.
Ouais, ouais.
Je crois, c'est aussi ce que je fais avec les podcasts, il y a un moment où je suis entre deux sommeils et je ne sais pas si je suis en train d'écouter quelqu'un qui me raconte quelque chose ou si je suis en train de le vivre.
C'est en effet, je pense, la fine lumière, la fine barrière entre ces deux états. Bon, alors avant de parler de visualisation et de ce qui t'a mené à ça, on va parler de toi, on va parler de ce qui t'amène ici. Et surtout, la première question que je pose à tous mes invités pour qu'ils sachent qu'ils vont écouter, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
Ah oui, alors, qui suis-je ? Ben, je dirais qu'aussi loin que je m'en souvienne, je suis un passionné de différents sujets qui aime bien... les prendre par le petit bout de la lorgnette, mais aussi les étudier dans tous les sens. Et comme je suis très joueur, je pense que j'ai commencé depuis tout gamin plutôt avec des jeux de balles. Et de fil en aiguille, j'ai parcouru, on va dire, ma région avec une balle jaune. Et puis par la suite, j'ai eu une autre passion. Qui m'a amené, alors quand je dis une autre passion, on va mettre des guillemets, puis on verra si on y revient par la suite. Mais il se trouve qu'à l'époque, je ne savais pas trop quel métier j'allais choisir, mais qu'une personne à mes côtés voulait absolument être vétérinaire. Donc je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, je vais faire comme toi. Et donc je suis devenu vétérinaire, sans connaître le métier, et en devenant passionné par la profession par la suite, et en même temps aussi très ouvert. Donc j'ai commencé, puisque c'était la formation, par les animaux de compagnie. Et puis en sortant de l'école, je me suis dit, il faut aussi que je découvre ce qui se passe dans les fermes. Donc je suis allé voir les grands animaux. Et en même temps, j'avais une petite idée autour de ce qui se passait avec la pathologie du comportement. Donc j'ai étudié cette partie. Et puis, amoureux aussi des voyages, j'ai décidé de faire un tour d'Europe des capitales à moto. Pas passionné de moto, mais très mauvais motard. Et donc, changement de carrière. Et changement de carrière qui m'a amené finalement à vivre le rêve que j'avais quand j'étais gamin, qui était de devenir un joueur de tennis professionnel. Alors certes complètement différent de celui que j'avais en tête, puisque là on va fêter les 40 ans de sa victoire, et ce sont les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. J'ai jamais imaginé jouer autrement que comme lui sur un court. Aujourd'hui je joue dans un fauteuil roulant, et je continue à être passionné, et je suis passionné aussi des rencontres. Peut-être que c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. Mais j'en ai eu une autre, tout à fait par hasard, il y a 5 ans, qui a fait que le 1er janvier 2023, je fais court puisque tu m'as demandé de me présenter succinctement, le 1er janvier 2023, dans mon club, je dirais, aujourd'hui je l'appelle le club des 5, mais une petite fille qui s'appelle Aurore est venue rejoindre ses frères et sœurs qui sont plus grands, mais j'avais auparavant deux paires de jumeaux. Et aujourd'hui, on a une petite Aurore magnifique qui m'attend là maintenant et qui sait que dès qu'on aura fini, on va partir tous les deux pour la Vendée. Je vais jouer un tournoi en Vendée juste après. On rentre tous les trois avec sa maman du Portugal. Et voilà, ce sont des jours merveilleux. Il y a 10 ans, tu m'aurais demandé si je voulais un enfant, je t'aurais dit non. Je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas me marier, je ne veux pas vivre avec quelqu'un. Et puis il y a 5 ans, j'ai dit oui à tout, très vite dans ma tête, un flash en rencontrant Marie. Et nous sommes ravis aujourd'hui.
Tellement de choses qui viennent à l'esprit. Alors déjà, tu as deux paires de jumeaux.
Oui, j'ai deux paires de jumeaux. C'est assez incroyable.
Vrais jumeaux
Alors les aînés sont des vrais jumeaux, ouais. Des garçons identiques, pour lesquels ça a été compliqué parce qu'ils sont nés à 6 mois et demi de grossesse.
Ah oui.
Et ils sont arrivés à l'hôpital, à la maison, pardon. Ils sont restés à l'hôpital, ils sont arrivés à la maison quand ils n'avaient que 4, quand ils avaient 4 et 5 mois. Donc là, Aurore, elle a eu 4 mois le 1er mai, donc je me rends compte de ce que c'est que de retrouver des enfants beaucoup plus tard. Et par la suite, j'ai eu une nouvelle paire, et là, ils sont hétérozygotes, un garçon, une fille. Et ça m'a valu une phrase assez drôle, mais Roger Federer, le joueur de tennis, en rentrant dans les vestiaires de l'US Open, est venu me voir en me disant, mais tu sais Stéphane, la première personne à laquelle j'ai pensé quand j'ai appris que j'allais avoir une deuxième paire, c'est toi. parce que t'étais la seule personne au monde que je connaissais qui avait déjà deux paires de jumeaux. Il se trouve que quelques mois auparavant, à Rotterdam, on avait fait une photo avec mes deux paires de jumeaux, mes quatre enfants avec Roger. Et il s'était souvenu bien sûr de ça parce que je pense que les siens étaient peut-être déjà en préparation dans le ventre de Mirka. Donc voilà.
Ah ouais, donc point commun en plus avec Roger Federer, si c'est pas sympathique. Non mais donc ça m'intéresse. Puis peut-être on y reviendra parce que ne serait-ce que dans la parentalité, pour moi-même avoir une sœur jumelle hétérozygote, c'est comme ça qu'on dit aussi, oui,
ouais, bah,
pour même
fait,
si
ouais,
c'est
ouais.
deux filles, c'est quand même une éducation particulière. Mais ce qui m'a marqué là dans ta présentation, c'est que en fait tu as dit que tu es devenue passionnée par le métier a posteriori.
Ah oui.
Et ça, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant, le fait qu'en fait, on puisse développer une passion. Et c'est, je pense que ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent, parce qu'on peut avoir parfois cette idée reçue que les passions, on est avec. Et je pense qu'il y a peut-être de ça, il y a peut-être des prédispositions à. Mais en fait, ce que tu nous expliques très bien, c'est que toi, vu que tu es curieux de nature, tu es allé dans un domaine, tu l'as exploré et c'est devenu une passion, quoi.
Mais je pense que c'est ça le point de départ, c'est la curiosité. On est curieux de tout et une fois qu'on a ouvert un sujet, la curiosité fait qu'on a envie d'aller plus loin et que c'est passionnant. Et peut-être ce qui est passionnant, c'est d'apprendre à apprendre plutôt que le sujet lui-même.
Tu penses que tu pourrais être passionné de tout ?
Bah, je crois que j'ai un peu cette tendance. Ouais. D'ailleurs, ma femme me dit que j'ai ce côté-là où la partie sombre de celui qui peut se passionner de tout, ce sera pour certaines personnes le fait de pouvoir sauter du coq à l'âne régulièrement ou d'ouvrir un chapitre et de dire « Ok, ça y est, j'ai fait le tour, maintenant je passe à autre chose.
Ouais. »
Mais moi, je trouve ça extraordinaire. Après mon accident, j'étais cloué sur mon lit d'hôpital et puis ensuite dans une maison, mais je me suis mis à jouer au bridge. Je cherchais à faire quelque chose en permanence et j'ai adoré jouer au bridge. J'ai joué au golf, j'ai adoré jouer au golf. On va découvrir un pays, après je vais écouter des podcasts sur l'histoire du pays, alors que l'histoire, c'était pas mon truc. Il se trouve que je suis veto, j'ai mon accident, je pars jouer au tennis. Je trouve que le milieu, l'environnement tennistique est auto-centré par essence, et ça me va bien parce que je suis aussi un peu comme ça. Mais il me manque une dimension. Je vais la chercher, j'ai la chance à cette époque-là de m'asseoir sur les bancs de ton école, puisqu'il y avait un accord entre la Fondation Lagardère et Sciences Po pour que les sportifs de haut niveau puissent avoir un bagage. Et donc moi je m'y suis inscrit juste pour assister à de nouvelles conférences, et j'ai adoré, j'ai passé 3 ans sur les bancs de Sciences Po où on avait des tutorats individuels, où on visitait Paris, on avait l'histoire de Paris en direct, parce que notre professeur de français ou d'histoire, qui connaît cette histoire par cœur, voulait nous amener sur les lieux et nous disait « levez le nez, vous allez voir là », ou bien au contraire, baissez la tête, les petits pavés métalliques qui sont ici, place de la Bastille, ça correspond à la guillotine qu'on venait placer ici. Ensuite, on allait, Quai Branly, c'était une nouvelle histoire, enfin l'histoire de Paris comme les spécialistes la racontent, c'est juste incroyable de l'avoir en direct avec ces gens-là. Donc j'étais passionné par ces études et la politique que je connaissais pas.
C'est les personnes aussi qui nous rendent passionnés.
Exactement.
Quoi. Et donc du coup...
Les personnes passionnantes qui font que...
Ils transmettent cette passion
parole,
aussi. Ouais. Ton accident, il arrive à quel âge ?
J'avais 25 ans.
Est-ce que tu peux nous raconter, pour peut-être les personnes qui ne le savent pas encore, ce qui t'est arrivé ?
Oui, bien sûr. Je suis à un moment de ma vie où je pense on s'imagine immortel, invincible, 25 ans. Je suis très heureux dans tout ce que je fais et je vais m'associer avec le vétérinaire avec lequel je travaille, qui est devenu un ami, dans l'Allier. Et d'ailleurs, oui, il y aura une anecdote marrante à ce sujet, mais on décide de s'associer. Donc l'Allier, centre de la France, la spécialisation, enfin où l'élevage le plus important, c'est l'élevage du charolais. On fait essentiellement des soins obstétricaux, donc des césariennes de vaches la nuit et des soins des veaux la journée. Et ça me plaît. Ça me plaît, je suis ravi, et je me dis bon, on se fait un bout de chemin ensemble. Et à l'époque, en plus, on n'était pas zapper, donc c'est quand je dis un bout de chemin, c'est ok, ouais. Je fais ma vie ici et je m'installe là et je deviendrai vétérinaire. Enfin, je resterai vétérinaire dans l'Allier. Et donc, pour célébrer notre future association, on dit, parce que c'est aussi un métier qui est dur, beaucoup la nuit et puis il fait froid et c'est assez particulier. On a besoin de rêver. On décide de faire le tour d'Europe des capitales à moto pendant l'été suivant pour célébrer cette future association. Et le troisième jour, après avoir essuyé des pluies incroyables en traversant la France et la Suisse, un peu plus tard, on se retrouve en Autriche et dans la magnifique ville de Salzbourg. La veille, je me souviens, on va jouer aux échecs dans la rue avec des grandes pièces, des grands échiquiers de rue. Et donc le lendemain, il fait un temps magnifique. Et puisque c'est la première fois, on s'arrête au bord d'un lac. Et au moment de repartir, on est trois motos. Donc mon ami Veto avec son épouse et deux de ses enfants qui sont sur une moto, et moi je suis seul sur la troisième moto. Ils repartent, et moi j'ai envie de jouer avec les canards qui sont là. Donc il y a les canards qui sont au bord, et on est dans une partie un peu de forêt, et en même temps il y a de l'eau, et donc je dis bah ok, je vous rejoins. Et donc je pars 5 minutes après, et je décide de les rejoindre, il y a quelques virages en montagne, et j'arrive au bord d'un lac où c'est juste somptueux, il fait un temps magnifique. Et là, devant moi, il y a une voiture rouge, un cabriolet, que je venais de regarder peu de temps avant, en France, parce que c'est une marque allemande qui venait de sortir un cabriolet qui n'existait pas. C'était la première fois qu'il faisait ça. J'ai dit, tiens, c'est marrant, ça existe en vrai, il y a des gens qui l'ont acheté. Je vais regarder. Et donc, je regarde la voiture qui... il y a une partie qui est souvenir et une partie qui est réelle. C'est toujours un peu confus dans ma tête, mais je double la voiture. Et cette voiture, au même moment, se déporte sur la gauche pour doubler des vélos qui étaient devant elle que je n'avais pas vu. Et donc, elle me coince sur la file de gauche. Et là, je dis « Ah mince, j'avais pas vu ». Et en fait, je touche la voiture qui arrive en face. Et je touche très peu parce que je ne tombe pas de la moto. Je dis « Mince, il y a mon sac derrière qui a touché, j'ai absolument rien senti ». Je freine, à peu près maintenant, on sait, une quarantaine de mètres parce qu'il y a la trace. Et au moment où je vais reposer ma moto 40 mètres plus loin, bah, en fait, je tombe. Et je me dis « Ah non, c'est pas mon sac, c'est ma jambe ». Et donc la jambe est coupée. Et la vraie urgence, là, c'est comme la fémorale est sectionnée. C'est de juguler l'hémorragie parce que je suis en train de me vider de mon sang, en fait.
Il n'y a personne que tu connais autour de toi. Là, t'es vraiment...
Alors, si, c'est, on est au bord d'un lac, ça fait énormément de bruit, il y a la résonance de l'eau autour, et il y a des automobilistes, et puis il y a celui aussi que je viens de percuter. Donc, il y a des gens qui s'arrêtent. Celui qui avait la fameuse voiture cabriolet allemande, lui, il s'en va. Donc, lui, il y a un délit de fuite.
Putain.
Et en revanche, je suis tout de suite aidé, et c'est aussi ma chance. Je suis aidé dans un premier temps par des automobilistes, par un médecin de campagne qui s'arrête et qui me pose une perfusion, donc du liquide physiologique qui me sauve la vie parce que je suis vraiment en train de me vider de mon sang. Ensuite, les pompiers arrivent. Donc les pompiers, l'été, je tombe sur des jeunes qui ne savent pas trop ce qu'il faut faire, qui commencent par mettre du sable, il y en a partout. Et puis le premier qui ne supporte pas ce qui est en train de se passer, qui se retourne, qui vomit partout... Ensuite, mes amis viennent m'aider. Et là, c'est assez marrant parce que chez les enfants, donc il y a F et Ben, ce sont des Flamands. Ben fait des études de médecine, mais n'arrive pas à gérer la situation et est vraiment en état de choc, certainement presque plus que moi, puisque moi je suis touché et je suis calmé, on va dire. Et en revanche, sa sœur qui fait des études de lettres. Gère comme une maman. Elle se met derrière moi, elle me parle, elle me dit de pas enlever mon casque, elle m'apaise, même si je suis tranquille, mais elle a un rôle protecteur immédiat et très bonne conseillère. Et d'ailleurs, je fais un bond dans l'histoire, mais des années plus tard, je vais me rendre compte que les dommages collatéraux sont plus importants que les dommages que j'ai vécus moi-même. Et je pense qu'elle était plus abîmée que moi dans cette histoire. Pour elle, ça a été un traumatisme plus conséquent. Moi, j'ai eu, paf, la jambe qui est coupée, c'est fini, on repart, on fait autre chose. Je blague quasiment sur la route en disant, bah, demain, la partie de squash qu'on avait prévu de faire va être équilibrée parce que je ne jouerai que sur une jambe.
Mais tu dis ça parce que tu ne réalises pas parce que... Qu'est-ce que tu ressens vraiment quand non, à 25 dire, ans tu te rends compte ouais. que potentiellement tu ne remarcheras plus?
Alors, c'est pas ce que tu te dis. Ce que tu te dis, en tout cas, c'est pas ce que je me dis. Et après, c'est toujours l'histoire du verre à moitié plein. Mais en fait, je me dis que j'ai eu une chance incroyable. Que ma tête n'a pas touché. Que je suis en train de sentir tout ce qui se passe. Que la colonne n'est pas touchée. Que je suis en vie. Parce que, à quelques centimètres près, certainement, je passais entre ces deux voitures. Il m'a rien manqué pour. Passé entre les deux voitures, mais à quelques centimètres près plus à gauche, j'y passais parce que je la touchais de plein fouet et là c'était fini. Donc je suis déjà dans ah, mais quel bol, finalement c'est que ma jambe et ma jambe c'est que dalle. Mmh. Et je voyais pas mon visage, hein, mais je sentais que j'étais pas touché à la tête.
T'arrives à t'accrocher.
Tu t'accroches. Et d'ailleurs, par la suite, ce sont des sujets de conversation qu'on a beaucoup sur le circuit de tennis sur lequel je joue, mais c'est cette relativisation qu'on fait les uns des autres. Et mon constat aujourd'hui est de me dire que chacun a un parcours de reconstruction qui est lié à son histoire. Mon partenaire de chambre et de double de l'époque me disait que lui, il préférait être paraplégique qu'être amputé. Parce que ce qui est important pour nous, c'est de relativiser, de se dire, ok, donc là, il n'y a que ma jambe qui a touché, il n'y a que ma jambe qui est cassée, finalement, une jambe, c'est que dalle. Et tu te dis, mais une jambe, c'est mieux qu'une main en moins. C'est mieux que deux en moins, c'est mieux que les quatre en moins, c'est mieux que le visage, c'est mieux que d'être aveugle, c'est mieux que d'être paraplégique, et paraplégique, c'est mieux que d'être tétraplégique. Donc t'as ce cheminement.
Mais c'est presque une hiérarchie de la souffrance.
Exactement, exactement. Sans qu'on fasse de distinction finalement personnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer la douleur de l'autre, et tu peux souffrir, comme moi, beaucoup plus parce que tu t'es coupé avec une feuille de papier, ou simplement parce que j'ai une écharpe dans la main, ça me fait souffrir, alors que mon amputation, ça me fait rien du tout. Mais ce sont tes histoires à toi, quand tu racontes une souffrance liée à une prise alimentaire, elle est peut-être plus importante que un bout en moins. Et chacun a son échelle de valeur par rapport à la souffrance, et je pense que l'autre ne peut pas l'hiérarchiser. Mais simplement, c'est aussi une démarche qu'on fait, parce qu'on a besoin de se reconstruire. Donc moi, je me dis, tiens, ça, c'est mieux que ça, c'est mieux que ça, finalement. Et finalement, c'est pas si mal. Donc de fil en aiguille, on se reconstruit tous comme ça, et là, je prends cet exemple, parce que mon partenaire me disait, mais moi, avoir un bout en moins, je pourrais pas, mon corps est intègre. C'est important pour moi d'avoir toute mon intégrité. Et moi, je me disais, mais enfin, tu déconnes, tu peux pas marcher, y a des troubles de la digestion, il y a des troubles sexuels, il y a des troubles associés qui sont, je pense, plus importants. Il y a peut-être même une espérance de vie qui est différente, il y a une usure des organes. Non, c'est mieux, moi, je pourrais pas me voir avec un bout en moins. Et c'est vrai que même moi, aujourd'hui, hein, si je me regarde dans le miroir avec le bout en moins comme ça, tu dis, ah, tiens, c'est vrai que c'est quand même bizarre. Il y a une intégrité corporelle qui est modifiée.
Et cet état d'esprit optimiste, t'arrives à le garder quand t'es sur ton lit d'hôpital? Est-ce qu'il y a un moment, une espèce de contre-coup, où au final tu n'as pas souffert durant cette période d'hôpital?
Ah non, si, c'est quand même difficile. Hein. C'est quand même très difficile d'être... Déjà, il y a la douleur.
Ouais.
Et puis, il y a aussi le film de ta vie à venir. Et moi, mon premier truc, c'est... J'aurais plus de femme, personne ne va m'aimer. Moi, je m'aime pas avec ce corps modifié, donc pourquoi un autre m'aimerait? Mais un autre dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle. Aucun vétérinaire va vouloir choisir un vétérinaire avec une jambe pour bosser avec lui plutôt qu'un vétérinaire qui a deux jambes. Donc effectivement, là, tu peux te faire une hiérarchie des problèmes à venir, mais en même temps, tu peux relativiser et y trouver des parades ou des solutions au fur et à mesure. Et ça, je pense que c'est un process qui n'est jamais fini. Et il y a 5 ans, quand je rencontre Marie, j'aurais jamais pu imaginer. Jamais. Et aujourd'hui, je dirais, waouh, c'est quand même un sacré coup de bol dans ta vie.
Qu'est-ce qui t'aide le plus durant cette période? Combien de temps ça dure, la période d'hospitalisation?
Alors, l'accident a lieu le 9 août 96. Je vais sortir une première fois pour Noël. Mais là, quand je sors, je vais chez mes parents, Je bascule d'un lit à éventuellement une baignoire parce qu'on essaye de me laver, parce que au départ t'es lavé, c'est pareil, hein, t'es lavé par les infirmières. T'as 25 ans. Au début tu te dis tiens c'est rigolo, c'est elle qui va s'occuper de moi et la toilette intime et tout. En fait non ça va pas. La première chambre, on est 8 dans la chambre. Donc là je parle de la toilette, mais il y a aussi les besoins. Et tu fais dans un bassin devant tout le monde, mais pas que des urines. Donc t'as un effet là où tu te dis waouh, il va falloir qu'on assume tout ça ensemble, ouais. Tu mets l'ego de côté, ça c'est très bien, et tu te rends compte que ces gens-là qui t'entourent sont aussi là pour ça, pour faire en sorte que tu te sentes bien malgré, t'es un bébé, donc il faut que tu retournes avec cet état en ayant la conscience de ne pas être un bébé, ou peut-être comme une personne très âgée aussi.
Accepter la dépendance,
accepter l'aide de l'autre. Et puis accepter ta défaillance, ta propre défaillance. Parce que j'ai commencé l'histoire en disant t'as 25 ans, t'as l'impression que tout va bien. Et en fait, la magie, et ça, moi, c'est un peu mon quotidien. Et j'y pensais en venant sur la route, parce qu'il y a un gars qui a fait un geste et puis qui aurait pu cartonner un piéton. C'est que tout est éphémère. Et ça peut s'interrompre en une seconde. Sur notre circuit, en fait, on n'a que des histoires de bascule en une seconde. Et ça t'aide quand même à relativiser. Là, on est au Portugal, il faisait un temps magnifique, et donc il y a tous les cours, tout le monde est en train de jouer au tennis, même si ce sont des accidentés. Hein, et à un moment, sous une tente, juste avant notre rencontre, je suis avec ma fille dans les bras, il y a un poteau assez grand qui tombe. Et il tombe sur deux joueurs japonais, assez costauds, il tombe sur le côté. Mais il aurait très bien pu tomber directement sur leur tête, il aurait pu tomber sur ma tête, sur la tête de ma fille, 4 mois, je pense que l'histoire, elle est finie. Et ça, c'est tout le temps.
Quand est-ce que tu parviens à l'accepter, cette réalité-là ?
Je pense que c'est aussi une construction familiale, et c'est de savoir, depuis tout petit, donc ce côté éphémère. Et mon père disait toujours que nous n'étions que de passage. Nous sommes que de passage, donc profitons-en. De toute façon, la vie sera toujours trop courte. Il y a un moment où on va dire, c'était pas assez. Et moi, quand j'ai 25 ans, mon réflexe sur la route, c'est de me dire, c'était court, mais c'était bien. Donc c'est ce côté, profitons de ce que nous avons. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et ça me fait marrer, mais évidemment, il peut y avoir une association avec un côté religieux à côté de ça. Mais de se dire que ce sera mieux demain, à la limite, tant mieux les gars si c'est mieux demain, mais profitons d'aujourd'hui parce que on n'est pas sûr que le contrat soit celui que l'on pense. Donc profitons.
Tu fais face à un moment donné au sentiment d'injustice ?
Non, jamais. Non, jamais parce que en fait, je pense que j'ai fait une erreur. Je me dis j'aurais pas dû doubler.
Et ça, ça te bouffe ou pas ?
Non. Je pense qu'au contraire, ça m'aide parce que je vois les gens autour de moi qui sont dans ce combat de l'injustice. Je crois que ça ne les aide pas à se reconstruire. En tout cas, ça fait un délai puisque c'est pas de ma faute. Et c'est comme dans le sport. Si c'est pas de ta faute, en fait, c'est plus dur à accepter.
C'est vrai.
Alors que si tu dis, ok, bon bah là, j'ai pas été bon. Mon podcast, en fait, il est naze parce que j'ai oublié de mettre une carte dans la caméra, le dispositif où que le son est mauvais. Et puis tu te fâches contre tes équipes, ou alors tu dis bah mince, c'est moi la responsable et la prochaine fois je ferai mieux. Parce que ce qui est important dans l'histoire, c'est comment tu vas progresser. C'est pas ce que tu es en train de faire, c'est comment tu vas progresser. Ça te permet de te détacher du résultat immédiat, de te dire si jamais je suis champion du monde, il va se passer ceci, si jamais j'ai la palme à Cannes, il va se passer cela, si jamais t'es toujours dans le si et peut-être aussi la déception. Alors que si t'es dans l'instant et que tu prends du plaisir et que nous on boit notre petit thé matcha et notre petite madeleine, on est ravis et puis demain il se passera encore autre chose. On va garder ce côté enfantin émerveillé. Et ça, je crois que l'émerveillement, le sourire de l'enfant qui te regarde et qui te fait un sourire et tu sais pas pourquoi et c'est dans toutes les langues, tu te dis mais attends, mais c'est trop génial. Et c'est finalement, tout ça, c'est hyper bien fait et il faut en profiter.
Ouais. Est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal avec ton goût pour la compétition ? Tu vois, j'ai du mal à voir cohabiter les deux parce que je me dis, si jamais on a ta mentalité que j'admire énormément, hein, au fond, ce qui compte, c'est le plaisir qu'on y prend et pas forcément le résultat. Est-ce que ça nous pousse vraiment à nous dépasser à chaque match ? Parce que j'ai l'impression que les meilleurs, c'est pas tant ceux qui aiment gagner que ceux qui détestent perdre.
Bah, je crois pas. En fait, moi, je suis animé par le plaisir. Et il y a pas très longtemps, dans notre sport, on a une superstar, un héros japonais qui vient de décider de prendre sa retraite. Et quand je repense à nos combats, à nos matchs, et aussi à nos parties ensemble, parce qu'on a été partenaires de double, bah la première chose que j'écris, c'est autour d'un merci. Merci à toi d'être si fort, parce qu'en étant si fort, tu m'as fait progresser. Tu m'as contraint à donner une meilleure version de moi-même. Et ça, c'est fabuleux, c'est que tu n'as plus d'adversaire, tu n'as que des partenaires de toi-même pour t'aider à t'améliorer. Et donc ce mec, pour moi, c'est un héros. Mmh. C'est un héros, je l'ai battu parfois, j'ai plus souvent perdu. Mais lui m'a dit, hey, Steph, il faut que tu sois plus fort si tu veux que tu gagnes encore, je sais pas, Roland-Garros, Wimbledon, l'US Open, il va falloir que tu sois encore meilleur. Et ça, c'est fabuleux, parce que t'as perdu, tu regardes les autres, tu apprends, et moi, je prends du plaisir dans l'apprentissage, et puis après, ça te demande un travail qui est plaisant, mais ça te garde aussi dans la créativité, parce que du coup, tu peux pas rester dans les acquis, t'es obligé d'aller chercher autre chose, et quand tu vas chercher autre chose, bah, tu rencontres plein de gens qui ont plein d'idées, que tu vas essayer de mettre en application. Moi, j'ai un truc qui est très simple, hein, c'est j'essaye, et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, on fait encore autre chose. Mais j'ai aucun problème à essayer. Ça permet aussi de rejoindre cette notion de plaisir, parce que je suis très détaché de la notion de victoire et de défaite. Et j'ai souvent ce débat avec ma mère, hein, qui était une professeure d'éducation physique et sportive, qui disait, comme certains, l'essentiel c'est de participer, alors que moi je déteste ça. Moi, pour moi, l'essentiel c'est pas de participer, c'est effectivement de gagner. Mais je dépasse ce stade en me disant, c'est de donner le meilleur, et s'il y a quelqu'un qui est encore plus fort, bah, celui-ci te demandera de t'améliorer. Et l'amélioration, finalement, c'est la recherche du sportif plus que la médaille, la reconnaissance, le titre qui restera éphémère. Et c'est ça qui est important pour moi. Et quand j'ai commencé à jeter des couleurs sur différents supports et pendant la pandémie à jouer, à faire le peintre, eh bien, je me suis rendu compte de ça. Tu regardes toutes les histoires, elles sont toutes éphémères. Les palmarès sont éphémères. On va oublier. On peut même changer de sujet et être sur, je sais pas, les stars d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier, les stars de la télé-réalité, de les philosophes, les écrivains, on en a plein qui sont oubliés. Et puis, je pense que dans 100 ans, ce sera encore autre chose. Et donc, si tu sais que toi, à l'échelle de l'humanité, t'es ce grain de sable, bah, t'es complètement détaché de tout ça. Et quand tu dis, moi j'aime bien la partie compétiteur, ou au contraire, c'est une partie qui me gêne, en fait, on est très peu à connaître cette partie-là, et j'aurais envie de dire, la plupart des gens, on s'en fout de tout ça. Moi, je joue à un jeu avec mes enfants sur, parce que donc mon univers, c'est le sport paralympique, et depuis très longtemps, je rêve des Jeux olympiques. Et je connais pas un joueur ni un parent qui un jour ait pu se dire, tiens, mon rêve, c'est d'être champion paralympique. Champion olympique, oui, j'en connais, mais champion paralympique, j'en connais pas. Et donc mes enfants me disent, ah ouais, champion paralympique, quand même, vous êtes moins médiatisé, c'est pas bien. Je dis, ok. Très bien. Donc là, on sort des jeux, ils sont venus souvent avec moi. Et donc la dernière fois, c'était au jeu de Rio. J'ai dit, ok, je comprends. Donc vous êtes de la partie, vous suivez. Citez-moi une Française championne olympique. Ah bah, tu sais, celle qui fait de la planche à voile. Oui, comment elle s'appelle? Ah bah, je sais pas. Bah ouais, on sait pas. Les pages se tournent très vite et l'actu, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Et
bah, je vois ce que tu veux dire. Mais si ton idée derrière, c'est de dire, ben, à l'inverse, un tableau, ça reste, je sais pas si je suis d'accord, parce que, par exemple, moi, je me souviens du palmarès de Billie Jean King. Alors qu'une peinture de cette époque, bah, comme c'est un bien matériel, il a peut-être disparu, il n'a peut-être pas, il a peut-être pas traversé les époques. Alors que je trouve que l'héritage d'une personne, que ce soit son palmarès, que ce soit un ouvrage, que ce soit une philosophie, bien sûr, on ne s'en souvient pas de tous, mais ça a plus de chances de traverser les époques qu'un bien matériel, je trouve.
Oui, alors je ne dis pas que mettre sur un support va faire que ça va rester pour l'éternité. Je dis juste que je me suis rendu compte de ça, et dans ma tête, mon mouvement, c'était l'éphémérisme, comment tout est éphémère, mais ça fait perdurer un tout petit peu. Mais dans 100 ans, à nouveau, et Billie Jean King aujourd'hui, t'es peut-être la seule à connaître son palmarès, hein, parce qu'on peut échanger avec des joueurs de tennis, mais même moi, il se trouve que en jouant sur ce circuit où on est souvent mélangés, tous ensemble, je vois des joueurs de mon époque. Des Bjorn Borg, des John McEnroe, des Ilie Nastas. Et je joue avec des joueurs qui sont plus jeunes que mes enfants. Et si je leur dis, ah tiens, t'as vu là, c'est Vijay Amitraj. Et ils me disent, c'est qui? De quoi tu me parles? Billie Jean King, ils vont me dire la même chose. Un peu moins, parce que maintenant, elle a une compétition qui porte son nom. Mais comme Roland Garros. Mais peut-être que dans 500 ans, Roland Garros, le tennis, ça existera peut-être même plus sous cette forme-là. Donc il faut...
Pour la diviser.
Je dis, ouais, à l'échelle de l'humanité.
Il y a une question que je me pose quand même, par rapport à ce que tu me dis, quand est-ce que tu souffres?
Bah, je te dis quand j'ai une écharde, quand je me suis coupé le doigt avec une feuille de papier.
Tu souffres jamais psychologiquement?
Bah, je crois pas, non. Je crois pas. Je suis triste, parfois.
Quand est-ce que t'es triste?
Moi, je suis triste, je suis boudeur. Donc si on se fâche dans une relation, je suis triste. Je suis triste. Et en même temps, je respecte ton choix. Si tu me dis que toi, tu veux que ce soit comme ça, bah, je dis, bon, ok, c'est toi qui as choisi, donc c'est ton cheminement, et je ne peux rien faire à l'encontre de ton cheminement. Je peux essayer de faire de mon mieux pour que l'échange soit sympa, mais si toi, t'es fâché, c'est dur. J'ai besoin de bouder dans mon coin. J'ai besoin de...
Et le fait de jamais... tellement ressentir que ce soit de l'anxiété, que ce soit de la rumination, que ce soit de la culpabilité, que ce soit de la détestation de toi-même, qui sont malheureusement bien trop communs pour beaucoup d'entre nous, ça a toujours été le cas?
Non, pas tout à fait. Mais en tout cas, je pense que l'accident, c'est une expérience d'une fin possible. Mmh. Tu te dis, ah, purée, en fait, tout peut s'arrêter. Et donc, la chance associée, c'est une philosophie que j'ai développée autour de ça pour dire, soit les choses sont vitales, auquel cas elles sont importantes, soit elles ne sont pas. Et donc, s'il y a une rayure sur la voiture, je m'en fiche. S'il y a une mauvaise note, tu feras mieux la prochaine fois. Si tu n'as pas signé ton contrat comme tu voulais, Là, en ce moment, on a notre fille qui a un rhume. Ben, mon épouse est inquiète, bronchiolite, hôpital, médicaments. Et moi, j'ai dit, écoute, c'est un nez qui coule. Et bien sûr, on surveille, mais hiérarchisons, quoi.
Ouais, ouais,
c'est vrai. En plus, on vient de passer une semaine avec les accidentés.
Ouais.
Ça n'empêche pas d'être vigilant, mais relativisons aussi.
Quand est-ce que tu décides, après l'accident, que tu veux reprendre cette passion que tu as pour le sport et te lancer dans un parcours de haut niveau?
Oui, alors, donc là, il y a plein de bémols par rapport à ça, parce que c'est pas une décision du jour au lendemain, en tout cas pour la première partie. En fait, c'est un constat. Et le constat que je fais dans ma reconstruction, c'est que j'ai besoin de retrouver un triptyque qui tourne autour de amour de soi, confiance en soi, estime de soi.
Comment t'en as conscience?
Bah parce que je vois bien que j'aime pas trop mon corps. Je suis pas très à l'aise. Au début, en plus, je suis pas amputé parce qu'ils réussissent à récupérer la jambe sur la route et puis à me faire un système où j'ai une jambe raide et je peux pas relever mon pied, je peux pas plier ma jambe. Donc je suis un peu, je marche avec une jambe raide partout. C'est pas très pratique. Et comme il se trouve que je m'installe en tant que vétérinaire à mi-chemin entre Grenoble et Chambéry et que ce sont les villes des stations de montagne, j'ai une grosse attelle, comme les gens qui se sont fait les ligaments croisés. Et cette grosse attelle fait que les gens pensent que je me suis fait un ligament croisé et que donc c'est ponctuel. Et ça, juste dans l'image, ça m'aide parce que je me dis...
Ils ne me voient pas comme un invalide.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est le premier truc. Ils ne me voient pas comme un invalide. Donc j'ai besoin d'une reconstruction au départ personnelle. Il se trouve que... Enfin, professionnelle. Sur le papier, je me dis au début... Je suis véto, je ne suis pas encore docteur, j'ai passé ma thèse après. Je suis véto, donc j'ai un job. Je pourrais toujours bosser quelque part dans un labo. Si je n'arrive pas à faire les vaches, je ferai les petits animaux. Je vais trouver une solution. Et en plus, comme c'est une profession libérale, je peux choisir de créer ma propre clinique. Plutôt, puisque je dis qu'aucun véto va m'embaucher, autant que j'essaye de faire ma propre structure. Et c'est ce que je vais faire. Donc je change de sujet de thèse aussi, parce que j'avais commencé, et je travaillais sur les aplombs des bovins. Et c'était une thèse qui était assez sportive, puisqu'il fallait aller dans les champs voir les aplombs des vaches. Et là, je décide de faire une étude sur les créations de cliniques vétérinaires à activité canine, chien-chat. En me disant, je fais mon étude de marché, ma thèse, et en parallèle, je fais une vraie étude de marché qui va me dire, tiens, si tu veux t'installer en tant que véto, le meilleur endroit, c'est celui-là. Donc je fais ça. Je découpe la France en deux, je choisis la moitié sud, et finalement, je m'installe à mi-chemin entre Grenoble et Chambéry. Donc là, j'ai une reconstruction professionnelle. En parallèle, j'ai une reconstruction personnelle, puisque je vais avoir donc ces deux paires de jumeaux avec la femme avec laquelle j'étais, qui est donc la maman des quatre premiers, et qui est vétérinaire elle aussi. Donc on est associés, on fait ce chemin ensemble. Mais sur le plan perso, il me manque un truc. Enfin perso, très individuel. Mmh. Je crois que j'ai une image de moi depuis tout gamin de sportif. Mais en plus de sportif qui a plutôt tendance à gagner de temps en temps. Comme j'ai pas ça, je joue au bridge. Et là tout de suite, je me dis, il faut que je fasse du bridge de compétition. Je peux rien faire avec mon corps, donc je vais le faire avec ma tête. Comme j'aurais pu jouer aux échecs, où j'aimais bien ces activités-là. Donc je joue au bridge. Et puis, un peu par hasard, un jour, un délégué médical qui vient me rendre visite me dit qu'il s'est mis à jouer au golf et que le golf, c'est fantastique et que peut-être je pourrais jouer. Moi, je me dis, bah non, je peux pas marcher, je suis coincé. Mais en revanche, je veux bien venir avec toi sur un parcours et puis je te suivrai, j'essaierai de taper une balle et puis on verra. Il me dit, non, on va prendre une petite voiturette, on va jouer ensemble. Bon, ok, donc on y va. Et donc, premier jour, j'avais déjà joué quand j'étais à l'école véto. Et là, je joue très bien par rapport à mes souvenirs de golfeur et puis par rapport à un classement possible, je joue super bien. Et il me dit, vas-y, on va en faire plus, on en fait plus, on se met un programme ensemble. Et puis finalement, je joue une première compétition. Et puis cette compétition, je la gagne. Et ça me qualifie pour une compétition nationale que je gagne, qui me fait partir une semaine au Maroc. Alors, c'est plutôt en mode loisir. Mais je m'amuse bien et il se trouve que sur place, je rencontre un gars qui est le capitaine de l'équipe de France Andy Golf. Et quand il me voit jouer, il me dit, mais c'est pas possible, faut que tu fasses le championnat de France, tu joues très bien. Ok, c'est quand? C'est dans 15 jours ou dans 3 semaines. Je vais jouer le championnat, je gagne le championnat. Donc là, j'intègre l'équipe et petit à petit, en fait, je me reconstruis en retrouvant une image de moi sportif que j'avais perdue. Et d'ailleurs, il y a un passage puisque dans mon club... les gens commencent à me parler de résultats sportifs. Là où auparavant, je me mettais dans un coin du practice et je voulais pas qu'on me voit taper, je voulais pas qu'on me voit marcher. J'imaginais ce corps tordu qui marchait mal. Et quand les gens me parlent de résultats, je me dis, tiens, c'est marrant, le regard des gens sur moi a vraiment changé. Ils me voient à nouveau comme un sportif. Je crois que ça va me prendre une quinzaine de jours et je me dis, non, je suis idiot. C'est pas le regard des gens sur moi qui a changé. C'est ce que tu dis toi, c'est mon propre regard sur moi-même qui a changé. Du coup, je suis capable tout seul de renvoyer une image positive. Cette histoire de communication en effet miroir, c'est que si tu envoies un sourire, tu reçois un sourire. Si tu envoies un air apathique, ça pourrait moins bien se passer.
Et ça, tu penses que tu aurais pu le faire même sans avoir les résultats que tu as eus? C'est ça que je trouve difficile dans la vie, tu vois. C'est que parfois, tu vois, sûrement que tu avais conscience du fait que le fait de toi ne pas t'aimer ne renvoyait pas une image particulièrement valorisante de toi-même. Mais c'est peut-être la limite du fake it until you make it. Tu vois, c'est...
Oui.
T'aurais pu, tu penses, réussir?
Oui, parce qu'en fait, encore une fois, c'est une question de hiérarchie. Et quand on parlait tout à l'heure de la reconnaissance, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, je me suis construit avec le tennis gamin, mais à un niveau régional. Et je me suis épanoui avec mon niveau régional. Quand je joue au bridge, je joue dans un petit club, dans un petit village. Donc, je ne suis pas en train d'imaginer... Enfin, si, j'ai en tête qu'un jour, peut-être, je ferai partie de l'équipe de France. Mais mon plaisir n'est pas associé au fait d'être champion du monde. Mais juste, on joue tous les quatre, là. On fait un Monopoly, j'ai envie de gagner le Monopoly. Et puis, si je perds, je perds, c'est pas grave, je suis ravi. Mais j'ai autant de plaisir, je pense, à tous les niveaux.
Je vois ce que tu veux dire. Et... C'est juste le fait d'accomplir... Et de te construire, ouais. qui te donne ce sentiment de... Est-ce que c'est de capacité, d'accomplissement?
Oui, ouais. Et c'est d'autant plus important quand tu as vécu les médailles... Je vais être très prétentieux, mais pour répondre à ta question. Hein, les médailles qui pourraient correspondre au toit du monde. J'ai gagné Roland-Garros 2 fois, j'ai gagné l'US Open 2 fois, j'ai gagné 3 médailles aux Jeux Paralympiques. En fait, c'est là où aussi il faut que tu saches ce petit côté de détachement. C'est que ça concerne quelques joueurs dans l'univers du tennis, quelques personnes en France, mais finalement, j'ai pas inventé de vaccin, j'ai pas de prix Nobel, j'ai rien changé à l'humanité. J'ai soit, à l'époque, mis une balle dans un trou quand je jouais au golf, soit tapé dans une balle jaune pour m'amuser avec des copains qui jouent au tennis. L'accomplissement sportif, lui aussi, il est futile et éphémère. Et ça, tu le vis quand tu suis les carrières et tu vois que finalement, les noms changent, les épreuves parfois restent, mais tout change. Et c'est encore ce côté éphémère. Soyez rassurés, demain vous serez oublié.
Alors, je vais te challenger un peu par rapport à ça, mais je me dis, si on suit ton discours, le côté, dans tous les cas, le sport, c'est plus de l'amusement qu'autre chose. De l'autre côté, tu sauves des animaux quand t'es vétérinaire. Il y a un vrai enjeu, de vie ou de mort.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que Tu as choisi pourtant d'aller dans la voie du sport professionnel?
Mais je pense que c'est là c'est le lien direct avec le plaisir. C'est-à-dire que quand tu es sportif professionnel paralympique, et ça concerne peut-être aussi les athlètes olympiques, mais c'est une vraie vie de plaisir. C'est-à-dire que tu arrives sur le circuit pour faire court. Les gens s'occupent de toi. Là où auparavant tu t'occupes des autres et tu t'occupes des animaux des autres, là les gens s'occupent de toi. Tu mets les pieds sous la table, tu te fais masser, tu tapes dans une balle, et puis il y a des gens qui t'applaudissent et qui t'interviewent et qui partagent avec toi. Ah, c'est fantastique ce que tu as fait. Et ça, c'est au quotidien. Je me retrouve au restaurant avec cette jolie femme qui est ma femme aujourd'hui. En terrasse, t'as des gens qui vont s'arrêter, qui vont venir et qui vont me dire oh, c'est formidable ce que vous faites. Et Marie, elle me dit, ses premiers regards, elle rentre dans une grande entreprise, c'est ah bah elle a dû coucher avec le patron. Et la première approche, elle est plutôt négative. Et même moi, je peux raconter cette histoire parce qu'en fait, nous, on se rend compte, il y a 10 sportifs qui sont présentés à des chefs d'entreprise pour qu'on établisse des liens et qu'on soit soit sujet à faire des conférences chez eux, soit sponsorisé par ces grands groupes. Et j'ai un copain qui est sponsorisé par le groupe qui organise et qui me dit tiens, regarde. Là, c'est la patronne de chez Cosi. Ce serait bien que tu la rencontres. Tiens, ça, c'est la patronne de Empower. Ça, c'est le patron de chez Paul, de chez Bic. Il y avait plein de grands groupes. Et puis moi, je regarde comme ça. Je dis ah, tiens, s'il y en a une que j'aimerais bien rencontrer ce soir, c'est celle-là, là, avec la robe rouge hyper sexy. Il me dit, ah, je sais pas qui c'est. Je sais pas. Alors nous, comme deux gros bêtas de mecs, on se dit, bah, soit c'est la femme de machin, soit c'est une escorte, soit c'est une fille qu'il faut payer pour...
Ouais,
mais vraiment, vraiment. Ouais, mais c'est terrible. C'est terrible. Et finalement, c'est à moi de venir sur l'estrade. Je viens sur l'estrade. Marie a une robe cardin avec des trous, qui un gros, puis ensuite ça diminue. Et de loin, je vois pas bien. Et je me dis, ah, c'est hyper osé. Il y a un tissu couleur peau. Oh, elle a des bottes. Je dis, ah, c'est incroyable. Et puis, quand c'est à mon tour de passer sur l'estrade, il se trouve que je suis à côté d'elle. Je reviens et je dis, non, c'est pas, ce sont pas des trous, c'est sa peau. Enfin, elle a pas froid aux yeux. Hein. Et après, c'est dans mon tempérament, mais je regarde et mon pote me dit, bah, va la voir, va la voir. Je dis, non, je vais pas la voir, je vais pas la voir. Un peu ce côté aussi, ça fait peur. Et finalement, c'est Marie qui vient, qui se pose juste devant moi, de dos, parce que les interventions sont pas finies. Donc, mon copain me donne un petit coup de coude, il me dit, vas-y, parle-lui. Je dis, non, je parle pas, je parle pas. Et elle se retourne et elle me dit, bah, je suis motarde, moi aussi, vous m'avez beaucoup touché. Dans ma tête, je lui dis, non, je vous ai pas touché. Et vous m'avez beaucoup touché, j'aimerais que vous interveniez dans mon entreprise parce que je pense que votre discours pourrait aider bon nombre de mes employés. Donc là, je me dis, waouh.
En fait, c'est la chef d'entreprise.
C'est une chef d'entreprise. Et en plus, je l'ai beaucoup touché, elle est motarde et elle souhaiterait que j'intervienne. Donc, je suis un peu bête et je la regarde comme ça. Je fais, vous êtes magnifique. Et je suis juste idiot. Et puis, c'est le début.
T'as la parité. Voilà, c'est... Heureusement, elle est allée au bout de son entreprise.
Ouais, exactement. Ouais.
Et est-ce que ça a été dur pour toi de voir le regard des autres changer sur toi? Peut-être raconte-nous quand est-ce que tu décides de te faire amputer, parce que maintenant, ça se voit, quoi. Alors qu'avant, quand t'avais la jambe raide, en effet, on pouvait croire que c'était une attelle. Mais rien que le fait que t'essaies de mettre en place des stratégies pour pas qu'on sache... C'est qu'au fond de toi, t'avais peur du handicap.
Alors attention, là aujourd'hui ça se voit parce que je rentre du tennis et que je suis en short, mais ça peut ne pas trop se voir, voire ne pas se voir du tout, contrairement à certains copains qui sont en fauteuil ou qui sont amputés des deux membres inférieurs ou d'un bras. Donc ça peut être assez discret. Ce que je voulais te dire sur le regard des autres, je sais pas si je me suis bien exprimé tout à l'heure, mais c'est qu'un jour j'ai compris que c'était un effet miroir et que c'était le regard que je portais sur moi-même. Et ça, tu peux le contrôler. Tu peux renvoyer ce sourire. Tu peux choisir. Donc ça, c'est toi. En fait, ce ne sont pas les autres. Et d'ailleurs, les autres marchent en effet miroir. En permanence, je vais
T'as jamais, même là où t'as confiance en toi, t'es un sportif de haut niveau, un champion paralympique, il n'y a pas des fois où tu sens le premier regard de « Oh, cette personne est handicapée ». Tu vois, parce qu'on est quand même dans une société, je trouve, qui visibilise très peu les personnes handicapées, qui sont assez stigmatisées, il y a peu de connaissances, quand tu regardes qu'au métro, tu peux même pas parfois le prendre parce qu'en fait, il n'y a pas d'ascenseur. Enfin, tu vois, la société n'est quand même pas pensée pour les personnes non valides.
Ouais.
Donc, je suis assez surprise, mais j'entends qu'en fait, toi, ce que tu nous dis, c'est que si toi, tu agis comme si, en fait, tu de rien n'était, comme si tu n'étais pas handicapé,
parce que
à ce moment-là, ça se ressent chez l'autre aussi.
Oui, parce que déjà, je considère que je ne suis pas handicapé. Et plein de gens, d'ailleurs, plus touchés que moi, vont dire « Ah ouais, mais lui, il a rien.
Ah »
Et
bon?
Donc, ça, c'est quelque chose que l'on vit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'enfile ma prothèse le matin comme on enfile une paire de chaussures. Et à partir du moment où j'enfile ma prothèse, je deviens adapté. Donc, je vais tout faire. Je vais faire du vélo, je vais jouer au tennis, je vais marcher. Je vais être confronté à zéro obstacle dans ma vie. On est en train d'apprendre à faire du paramoteur, je fais du ski sur une jambe. Marie, elle adore marcher en montagne, ce que j'aime pas particulièrement, mais elle me fait faire des via ferrata alors que j'ai le vertige. J'ai l'impression, il y a certainement des limites, mais en tout cas, le monde est suffisamment vaste pour que je trouve des activités, la plongée, l'apnée, plonger avec un masque et un tuba. La vie peut être suffisamment remplie pour ne pas avoir d'obstacles. Et le handicap, finalement, c'est quand tu es confronté à quelque chose que tu ne peux pas faire.
C'est pour ça que tu t'es fait amputer ?
Alors ça, c'est encore autre chose. Donc, j'ai ma jambe raide, je me dis, je ne peux pas laisser un chien dans cet état-là, c'est pas possible. Si c'était un chien, je ferais autre chose. Et je trouverais un mécanisme à l'intérieur pour au moins que ça se plie quand il est assis... Mais là, c'est pas possible. Si je viens, là, j'ai ma jambe que je dois mettre sur un petit tabouret. On va au resto, je me balade avec mon petit tabouret. Je peux pas aller au cinéma parce que sinon, je mets mon pied dans l'oreille de la personne qui est devant. Ce truc, c'est vraiment un enfer. Donc, je cherche des solutions et des greffes de membres et des prothèses internes. Et un jour, sur un parcours de golf, je vois un gars en short, donc comme moi aujourd'hui, qui marche avec sa prothèse et qui marche super bien, alors que moi ça fait 8 ans que je vois, ou 5 ans que je vois des amputés qui marchent tous mal, et il n'y en a aucun qui me fait rêver. Je me dis, c'est l'enfer, l'envie. Et là, je vois ce gars, je dis, c'est pas possible, c'est la prothèse que j'ai vue à la télé, qui appartenait au domaine de la recherche, qui existe en vrai. Et le gars est juste incroyable, quoi. Il joue pas très bien au golf, mais il marche super bien. Donc je vais le voir, et je lui dis, mais tu peux me raconter, là, cette prothèse, elle existe en vrai, c'est ça qui t'aide à aussi bien marcher. Il me dit, bah écoute, oui, effectivement, j'ai une petite aide électronique, c'est surtout que j'ai appris à marcher avec, et puis maintenant, ça se fait très bien. Et c'est quoi ton parcours? C'est quoi l'histoire? Il me dit, bah écoute, moi j'ai eu la jambe raide pendant 3 ans, c'était un enfer, j'avais tellement mal que j'ai décidé de me faire amputer. Ah! Je lui dis, ah mais ça marche? Ah bah je veux la même chose. Donc j'appelle mon chirurgien et je lui dis, ok, j'ai trouvé, là ça fait 8 ans qu'on cherche, là maintenant j'ai trouvé, je t'envoie un film, c'est ça que je veux. Et lui qui m'avait toujours dit non, me dit, ah ouais, t'as raison, on va faire ça. Je lui dis, ah non, là, tu m'expliques, parce que pourquoi tu m'as toujours dit non? Il me dit, bah écoute, c'est simple. C'était en 2004, donc il avait vu les Jeux Paralympiques de 2004, il avait vu les évolutions sur les prothèses, et surtout, il connaissait mon état médical. Et quand on dit « j'ai choisi de me faire amputer », j'ai surtout choisi la date, parce que c'était inéluctable. J'allais un jour devoir y passer, et en attendant, il m'avait mis un clou en haut du fémur qui traversait le semblant de genou qui me restait jusqu'à la cheville. Et donc c'est ça qui me bloquait, et un jour... En fait, ce clou qui se tordait déjà provoquait des douleurs dorsales, mais en plus allait à terme soit se casser, soit faire qu'il allait falloir le changer. Et comme il n'y avait rien qui fonctionnait, il allait falloir m'amputer. Donc là, comme j'ai 34 ans, je dis, bah tiens, on le fait maintenant, parce que maintenant, je vais pouvoir apprendre à marcher. Et tu vas me changer ma vie maintenant plutôt que dans 20 ans où je ne pourrais pas faire grand-chose. Et donc, on fait ça. Et je rencontre en fait ce joueur de golf au mois de septembre. Et le 28 décembre 2004, 3 mois après, il m'ampute, je me réveille, c'est mon cadeau de Noël, c'est fantastique, j'ai plus de douleur, j'imagine à nouveau de la mobilité. Et d'ailleurs, je vais vivre un 16 heures assez difficile bien plus tard, puisque en amont, j'ai travaillé avec le prothésiste et le chirurgien pour qu'ils se calent sur la future prothèse à mettre. Et le premier jour où, avec un plâtre, les prothésistes me disent « tiens, on va te faire essayer », parce que le moignon commençait à cicatriser, tu peux essayer. J'ai une prothèse, je me mets dans des barres parallèles pour avancer, et j'arrive pas à plier le genou. Et là, je me dis, ah, j'ai fait une grosse connerie. Et ils me disent, en fait, ce genou, il est un peu particulier, demain, on reçoit celui que tu voulais, on verra demain. Et donc, je passe la nuit à me dire, on verra demain, quoi. Et le lendemain, c'est fabuleux. Et le lendemain, il filme dans tous les sens en disant « mais c'est la première fois qu'on voit quelqu'un marcher aussi bien le premier jour avec ce truc. » Et ça y est, c'est parti. Et donc, juste pour dire qu'il n'y a pas pour moi de handicap, il n'y a qu'une adaptation. Mmh. Et que cette adaptation, elle est sur le plan fonctionnel extraordinaire. Et puis même, on se marre à y trouver des avantages. Et je rabâche sur Marie, mais aujourd'hui, nous, on se fait la blague. La plus handicapée des deux, c'est elle. Et pour moi, le sujet, c'est la confiance en soi. Ou l'amour de soi. Et Marie, je pense, a souffert de ça, ou souffre un petit peu de ça. Et je pense que dans la vie, c'est plus difficile d'avoir cette... ou de ne pas avoir cette aptitude plutôt que l'autre. Et la jambe, finalement, c'est qu'elle.
Comment on gagne confiance en soi?
Ah, alors, je pense qu'il y a beaucoup autour de l'éducation, l'amour des autres... Et puis des petits succès. Et il faut apprécier ces petits succès. Et donc là, en l'occurrence, pour l'histoire des accidentés, c'est moi au début, mon propos n'est pas du tout de taper dans une balle, mais c'est de mettre une cuillère dans ma bouche. Parce que quand j'ai 25 ans et que je suis sur mon lit d'hôpital, au réveil, quand je veux me nourrir, en fait, puisque je ne suis pas un bébé, je suis conscient de tout ce qui se passe, je prends ma cuillère et je passe à côté de ma bouche. Donc je vois que je rate ma bouche. Tu imagines le bébé là qui se nourrit, qui en fout partout, qui se marre. Mais toi, ça te fait moins marrer. Tu dis, mais que s'est-il passé dans mon cerveau? Les connexions qui déconnent là, comment on va faire? Donc premier sujet, de mettre ta cuillère dans la bouche. Ensuite, de te raser. Ensuite, d'aller seul aux toilettes. De voir que les différents organes fonctionnent au fur et à mesure. Et là, c'est petit succès. Et tu les empiles. Et finalement, c'est un bonheur quotidien. Et donc, je me souviens plus. Je me demande si c'est pas une question que tu avais posée à Rosa. Ou je peux pas dire si c'est une question récurrente, mais un jour, tu avais parlé de sa définition du bonheur. Et pour moi, le bonheur, c'est la somme des moments de plaisir partagés. Et donc, quand tu as plein de petits moments de plaisir qui sont partagés, bah t'es heureux dans ta vie.
Donc il y a pas de moment de bonheur seul.
Je pense que ceux-là sont plus modérés.
Dans t'es l'intensité. Content.
Et tu peux être content de toi, mais pour que le bonheur soit ou que le moment de plaisir soit plus intense, moi ce que j'aime, c'est quand les gens me racontent comment eux ont vécu le même moment et qu'on fasse ensemble. Les points de vue en fait. Il y a une phrase qui dit comprendre le monde, c'est comprendre les différences de points de vue. Et donc c'est ce que j'aime bien, moi. C'est comment toi t'as vécu l'événement, quel qu'il soit, hein, et comment l'autre l'a vécu. Rosa parle de elle, son kiff, c'est d'aller voir un film et puis ensuite de parler du film. Comment t'as vécu le film? Mais je pense que ça en fait partie. Toi tu l'as vécu comment? Toi tu l'as vécu comment? On en parle.
Tu prends plus de plaisir à jouer des matchs en double qu'en individuel?
Non, je suis pas sûr. Non, je suis suffisamment égocentré pour prendre du plaisir tout seul, en simple.
Tu vois, ouais. Moi, je pense que... Enfin, moi, je sais que j'ai des grands moments de bonheur à lire.
Oui, bah oui.
Mais c'est pas partagé, tu vois.
Mais jamais, tu vas pas ensuite proposer ce livre
raconte.
À...
Bah oui. Ouais, mais en le racontant, je ressens moins de joie que quand je l'ai lu et que je l'ai ressenti, tu vois.
Ouais, mais quand tu le lis, tu es en train de raconter une histoire et puis... Finalement, c'est un échange que tu as avec l'auteur ou avec les mots.
C'est sûr, oui, c'est vrai que c'est pas soi face à soi-même. Mm. Et comment alors est-ce que tu passes du golf au tennis? Est-ce que c'est parce que tu as fait le tour du golf?
Non, pas du tout. Alors comment je passe du golf au tennis? C'est concomitant avec l'histoire que je viens de te raconter, à savoir que en septembre 2004, c'est le championnat d'Europe handi golf. Ça se passe sur le golf de la Vansenau, à côté de Strasbourg, et je rencontre ce joueur amputé qui marche super bien. J'appelle le chirurgien. Et là, je me dis, je vais faire des films, je vais retourner le voir, je vais en parler en famille, je vais en parler avec mes enfants, et puis j'ai besoin d'en savoir plus. Donc je vais le voir jouer en Italie le mois suivant, puis encore le mois suivant en Espagne. Donc là, c'est le mois d'octobre 2004, et je vais jouer en Espagne. Et mes copains me font une surprise le soir en me disant, mais tu sais avec qui tu joues demain? Il se trouve qu'au golf, quand on fait la reconnaissance des parcours la veille, on joue avec des célébrités ou des partenaires, des sponsors qui sont invités. Et moi, je joue avec un célèbre joueur de foot qui s'appelle Johan Cruyff, pour ceux qui connaîtront. On passe 6 heures, parce qu'on joue 18 trous ensemble. Il y a deux équipes de télévision qui le suivent. On partage la partie, mais il est aussi occupé avec les caméras, on se raconte nos vies. Et je lui dis, à un moment, moi, ça fait 2 ans que je suis numéro 1 de ce circuit européen. Je rêve d'un circuit mondial. Il me dit, ah mais c'est trop une bonne idée. Nous sommes impliqués, nous, Fondation Johan Cruyff, et lui, personnellement, pour que les sportifs soient formés. Donc lui, il avait déjà créé des académies Johan Cruyff à l'image de ce qui a été fait avec Sciences Po par la suite. Mais il avait créé des académies avec des universités pour former les sportifs, pour qu'ils aient des métiers dans l'univers du sport. Et en parallèle, il développait du sport pour tous. Et il me dit... On va travailler ensemble sur ce sujet, ça m'intéresse, on va créer ce circuit mondial de golf ensemble. Ok, super. Donc effectivement, à la fin de la semaine, il me présente son directeur de fondation qui vient, on commence à travailler ensemble. Et assez vite, ils me disent, mais tu sais, on va pas tout révolutionner pour le golf. Il se trouve que nous, on est partenaire d'un autre sport où on trouve que sur le plan de l'organisation, c'est extraordinaire. Donc on va faire la même chose et tu vas aller voir ce que c'est. Et il m'envoie voir du tennis fauteuil que je connaissais pas, et quand je regarde je dis mais c'est incroyable le tennis fauteuil, et en plus j'ai un biais d'ancien joueur, mais je vais voir un tournoi où je vois un gars où on me dit qu'il est 17e mondial, et je dis, encore avec beaucoup de prétention et d'égocentrisme et de stupidité des sportifs, mais je m'y associe, je dis mais si ce gars il est 17, moi je suis 16 demain. Et puis après je commence à découvrir le sport et je me dis mais attends, si lui il est 1, c'est ça, moi j'étais 1 au golf en Europe, je vais pas être numéro 2 au tennis. Je fais un projet et j'y vais. Et c'est comme ça que je bascule. Alors, je bascule avec la rencontre. Je bascule aussi avec un point clé très important. C'est qu'en 2004, Paris, la ville de Paris, est candidate aux Jeux Olympiques et donc aux Jeux Paralympiques. Et finalement, en 2005, il y a une annonce. Et c'est pas Paris qui est retenu, c'est Londres. Mais dès le lendemain, il y a aussi le programme. Et le golf qui était pressenti pour redevenir olympique n'est pas choisi. Et je me dis, je pourrais jamais aller aux Jeux en me disant... S'ils ne sont pas aux Jeux Olympiques, ils ne seront pas aux Jeux Paralympiques. Donc je ne pourrais pas aller aux Jeux avec le golf, qui était un peu un truc que j'avais dans un coin de la tête. En revanche, le tennis qui est hyper structuré et qui en plus est un sport professionnel, je peux essayer de mettre mon métier de vétérinaire entre parenthèses et de vivre cette aventure tennistique. Et puis si ça ne marche pas, je redeviens veto. De toute façon, j'ai aucune prise de risque.
Et ça, t'as quel âge à ce moment-là?
34.
C'est pas l'âge où ils prennent la retraite, généralement, les tennisman?
Si, bien sûr. Mais après, il y a plusieurs particularités dans notre univers. La première, c'est qu'on est moins nombreux. Donc, quand on parle d'exploit, il faut relativiser, parce que, mine de rien, s'il y a moins de joueurs, le niveau est plus bas. Première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, comme on joue assis, il y a moins de dépenses énergétiques, donc c'est moins fatigant pour le corps. Et en particulier pour moi, une fois que j'ai fini de jouer assis, je me mets debout, je mets ma prothèse et je marche. Donc je repose mes membres supérieurs. Là où d'autres joueurs qui, eux, sont en fauteuil roulant au quotidien, ils viennent de jouer un match et de pousser dans tous les sens sur le fauteuil de sport. Ils sortent du fauteuil de sport, ils continuent à pousser avec le fauteuil de ville et eux, ils ont des pathologies des membres supérieurs. Donc j'ai un double effet positif. D'un côté, le fait de pouvoir marcher et de l'autre côté, le fait de faire un sport assis qui est moins consommateur d'énergie. Donc tout va bien.
Est-ce qu'à un moment, tu doutes de ton rêve?
Ben non, parce que mon rêve, c'est de prendre du plaisir. Donc je prends du plaisir.
C'était quand même... Tu te dis, ta décision, elle est instrumentalisée par le fait que tu te dis, il y a les JO et un jour, peut-être...
Oui, je serai numéro 1.
Je ferai les Jeux, quoi. Non, je ramènerai une médaille.
Tout à fait. Donc j'ai au départ une construction qui est orientée sur le fait de pouvoir vivre de cette passion. Et comme je suis compétiteur, dans la définition de mes objectifs, au départ, je mets numéro 1. Mais c'est aussi parce que je suis novice et que je ne sais pas à l'époque qu'un objectif, ça ne peut pas être numérique. Et donc ça, je vais l'apprendre plus tard. Mais ton objectif, ça ne peut pas être, je ne sais pas, d'avoir 10 millions de followers. Ton objectif, c'est de bien faire ton travail. Et si tu fais bien ton travail avec beaucoup de plaisir, tu vas en donner aux autres et donc les gens vont venir. C'est une conséquence.
C'est vrai.
Eh ben, ça marche dans tous les domaines. En fait, fais bien ce que tu as à faire. Et puis, s'il y a quelqu'un qui fait 100 millions, qui est meilleur que toi ou qui a un sujet qui intéresse plus les autres, très bien, bravo. Mais toi, tu fais bien. Et si tu fais bien, tu vas te donner une chance de. Et c'est comme ça qu'on construit nos objectifs. Donc moi, mon but à chaque fois, et l'idéal, ce serait de gérer chaque coup, chaque point, chaque jeu, chaque match, chaque tournoi, avec cet état d'esprit. Et c'est ce que fait très bien Rafael Nadal. C'est que pour Rafael Nadal, chaque point est un match. Donc après, bon, faut réussir à séquencer et d'arriver jusque-là. Mais le plus important dans l'histoire, c'est de retenir que l'objectif ne peut pas être de gagner une médaille, de gagner un tournoi. L'objectif, c'est ton engagement et ce qui va te permettre de travailler entre le jour du tournoi et aujourd'hui ou demain.
C'est hyper intéressant, c'est l'engagement. Ça. Parce qu'en gros, Rafael Nadal, son objectif, c'est pas d'être numéro un mondial, c'est d'être le meilleur joueur qu'il peut être.
Ce jour-là.
Et la conséquence sera
exactement
le fait d'être numéro un mondial.
Ça marche dans l'industrie. Ouais. Et c'est ce qui fait aussi qu'il gagne autant. Parce que lui, d'ailleurs, moi je suis comme lui, je ne sais pas s'il a 14, à 15, à 16 ou à 17, mais lui, il a oublié qu'il avait gagné 14 fois Roland-Garros avant. Il revient et il dit, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Et moi, c'est maintenant. Et je veux gagner ce premier point, et ce deuxième point, et ce troisième point. Et à la fin, les journalistes ou les gens comptent en disant, il a 14, il a 15. Mais sauf que la semaine d'après, il joue à Wimbledon. Donc lui, il s'en fout dans Roland-Garros, il est déjà dans le prochain. Mmh. Et puis à Wimbledon, les autres, ils veulent le battre. Ils disent, après, il y a l'US Open. Donc tous les jours, t'as ce truc qui permet deux choses. Un, tu te reposes jamais sur tes lauriers, ce qui est quand même pas mal dans l'esprit détachement, engagement, recherche de reconnaissance et en même temps humilité. Humilité très très importante chez lui. Et donc le deuxième truc, c'est qu'il ne pleure pas non plus sur son sort. Il accepte quand il perd, il dit ok, bravo, t'as été meilleur que moi. En revanche, je suis déjà au travail pour demain.
Tu te souviens de ta première victoire en Grand Chelem?
Ouais, je m'en souviens. Ouais.
C'était quand?
C'est magique. C'était en 2012. Je joue justement cette superstar japonaise qui s'appelle Shingo Kunieda et qui est numéro un mondial. Il est numéro un mondial. J'ai travaillé avec l'école des arts et métiers juste à côté où je faisais du développement sur mon fauteuil roulant. Donc j'avais mis en place un système sur mes roues pour qu'elles soient mieux, que j'ai une meilleure préhension. Et en fait, mes roues étaient très lourdes à l'époque. On n'avait pas trouvé de matériaux légers, mais on avait fait une amélioration. C'était fatigant. J'avais lu le livre de Yannick Noah qui s'appelle Secret, etc., où il raconte comment, la veille de Roland-Garros, il rêve de la finale de Roland-Garros et qu'il a perdu. Et son père le réveille le matin, alors que dans son rêve, il a perdu Roland-Garros. Et il se réveille, il dit « Ah non, j'ai pas perdu. Ah mais non, mais c'était dans mon rêve, donc maintenant ça joue, tu sais, la deuxième chance, j'y vais. Ah mais j'y vais. » Et en parallèle de ça, il raconte comment la fatigue, en gros, c'est que dans la tête. Alors après, on pourra en parler, mais comme j'avais cette lecture, je suis arrivé sur le court, je gagne le premier set, je perds le deuxième. On va jusqu'à 6 partout au troisième set. Oui, je crois que c'est à ce moment-là. On fait une pause. Je me regarde dans le miroir. je suis claqué. Ça fait déjà plus de 2 heures qu'on joue. Et je me dis, c'est que dans la tête. Je suis en pleine forme, je suis que dans la tête. C'est que dans la tête, je suis en pleine forme. Je reviens sur le cours, je perds 5 points à 1. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est premier à 7 points. Souvent, 5-1, on pense que c'est plié. Et puis, je dis, bon, bah, c'est pour aujourd'hui. Moi, de toute façon, comme Yannick, hein, si j'ai perdu le match dans mon rêve, tant que le dernier point n'est pas joué, il faut y aller. Je remonte, je fais 2 aces. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je reviens à 5-4. Finalement, il fait 6-4. Et puis là, il y a plusieurs points incroyables. Et finalement, 7-6 pour moi, balle de match. Et donc ça, c'est l'arbitre qui va me raconter la suite. Mais Shingo met la première balle faute dehors au service. Et puis la deuxième qui vient près de la ligne. Et je la joue, parce que tu as le réflexe de jouer. Et je me dis, mais elle a été faute. Et l'arbitre me dit, j'ai attendu que ton adversaire, il me raconte des années plus tard, hein, demande de venir vérifier la marque. Pour faire l'annonce, mais j'allais venir montrer la marque faute. Il a rien dit, et donc j'ai dit je sais tes matchs, Stéphane Houdet. C'était mon premier Roland. J'ai jeté ma raquette, j'ai regardé les gens. Et il y avait une ministre des Sports qui était là, et qui, à des années plus tard, on lui demandait ses 5 meilleurs souvenirs de sport. Et moi, je rentrais d'un tournoi, j'étais affalé sur mon canapé, je l'écoutais parler de Platini, d'Amélie Mauresmo, et je sais plus si en 4e ou en 5e, et dit il y avait aussi la victoire à Roland Garros d'un joueur français. Stéphane Houdet, j'ai dit, quoi
incroyable. Incroyable.
Donc ça, c'était fabuleux.
Donc tu gagnes ce premier grand chelem en 2012. C'était en 2012. Ton combienième grand chelem?
Ouais, j'ai commencé à jouer en 2005 la première fois, et les grands chelems ont dû commencer en 2007. Donc j'avais fait des finales perdues.
Ouais. J'allais te demander, qu'est-ce qui fait, tu penses, que cette fois-ci tu gagnes?
En fait, je me rapprochais, puis j'étais dans une démarche de progression, j'apprenais. Et ce jour-là, je pense que j'avais à la fois du plaisir et du détachement, je voulais jouer chaque coup. J'étais à la maison, j'avais imaginé que j'allais pouvoir le battre, je m'en étais déjà rapproché. Et en plus, en le battant ce jour-là, je suis devenu numéro 1 mondial. Donc il y avait vraiment tout qui était autour. Et autre élément important par rapport à l'éphémérisme et par rapport aussi à mon détachement, le golf m'avait beaucoup aidé, parce que le jour où je suis devenu numéro 1 européen de golf, et on peut entendre ça aussi dans certains sports, t'as des sportifs qui font des petites dépressions post-réussite en se disant qu'ils sont arrivés au bout de leur rêve. Et c'est aussi parce qu'ils ont associé leur rêve à quelque chose de numérique, en disant bah, si un jour je gagne ça, ou si un jour j'arrive à 10 millions de followers... j'aurais fait mon truc. Et ça, c'est, je pense, aussi quelque chose sur lequel il faut travailler, c'est que ça ne peut pas être un rêve. Et je savais que, à la fois, certaines personnes, en me voyant numéro 1, allaient se dire « bon, bah ça y est, ça c'est fait, et il n'y aura pas d'autre chose ». Et puis d'autres allaient être un peu jalouses, d'autres allaient être un peu déçus en se disant... J'ai des joueurs qui m'ont dit « j'espère que tu seras moins fort l'an prochain, comme ça on pourra rivaliser ». Et je me suis dit « mais c'est quand même triste, parce que dans ces sports où on essaie de progresser, en fait l'idée pour la suite, c'est d'être moins fort ». Et comme j'avais expérimenté ça, j'étais complètement détaché du fait d'être numéro 1 et de l'idée où on te dit « quand tu seras numéro 1, t'auras plus de sponsors, t'auras plus de ceci, t'auras plus de cela ». Et je pense que si tu sais que le plus important, ce sont tes ancrages et tes proches, tu vas pas trop être trop sensible à cette partie-là. Mmh. Et donc tu vas être mieux. Je pense que tu vas être mieux. Et c'est un peu Rafa. Rafa, il est en famille, il joue aux petits chevaux avant chacun des matchs. La terre entière, j'exagère, mais beaucoup, l'univers du tennis se demande s'il va faire 14, 15, 16, etc. Mais lui, c'est pas son propos. Lui, c'est mon oncle m'a dit qu'il fallait que je débarrasse la table et puis que je fasse la vaisselle tout à l'heure. Parce que
faut savoir se couper aussi potentiellement des projections que les autres font sur soi. Ça, c'est pas toujours facile.
Alors, il y a les projections et puis il y a peut-être aussi les, je sais pas comment on pourrait les définir, mais quelques personnes malveillantes autour de toi, et qui vont savoir aussi retourner leur veste s'il y a un autre meilleur qui arrive, ou si le vent tourne. Ça, faut le savoir. Mais bien sûr, quand c'est la première fois, tu peux pas deviner. Tu imagines que tout le monde t'aime.
C'est sûr, les désillusions, c'est ce qui fait grandir aussi. Ouais. Mais je sais qu'il y a un sujet qui te parle, on en parle un peu là, mais c'est la mentalité de la gagne. Et en fait, je me demande, je pense qu'il y a une grande part de... Je sais pas si c'est de l'inné, si c'est de l'acquis, mais en tout cas... Il y a une grande part qu'on ne contrôle pas, parce que ça s'est joué dans l'enfance. Mais je suis persuadée que tout peut s'améliorer, se changer, se transformer. Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être tendance à tu vois, s'auto-flageller, à voir le verre à moitié vide, ou tu vois, juste à ne pas s'estimer à leur juste valeur, quel conseil tu leur donnerais pour développer cette mentalité de champion ?
Moi, j'aime bien la phrase de Lavoisier hein, qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Le changement de prisme par rapport au verre d'eau, je le trouve relativement simple, parce qu'il est vrai qu'il est à moitié vide, il est vrai qu'il est à moitié plein. On peut changer notre regard comme ça. J'ai décidé que je ne voyais que cette partie-là. Chez les plus grands, là, il y en a un qui a décidé de faire un sport que je ne connaissais pas au départ, qui s'appelle la force athlétique. Donc, il va complètement à l'opposé de son père. Et puis, il naît lui aussi à 6 mois et demi de grossesse. Donc, il fait 1 kilo. Et puis, son frère un tout petit peu moins à la naissance. Aujourd'hui, il est dans cette démarche un peu de tout est possible. Il soulève des barres qui font 215 kilos. Moi, je pense qu'à 80 kilos, j'y arrive pas. Donc il s'est dit, quand on le travaille, on peut le développer. Et je pense que pour lui, c'est certainement associé aussi à amour de soi, estime de soi, les entourages. La seule chose qu'il peut faire, c'est avoir un amour inconditionnel, d'être bienveillant. En même temps, avec les enfants, moi, ce qui était difficile pour moi, c'est d'être moi hors cadre. Et ils me le disent aujourd'hui, il nous a manqué aussi un peu un cadre, en sachant qu'à chaque fois que j'ai voulu mettre un cadre, ça a été un peu conflictuel. La construction de soi-même, effectivement, elle remonte à la petite enfance. Et comme tu le dis aussi, il y a toute la culture qui est, malgré tout, négative. C'est-à-dire que depuis tout petit, on entend « tu pourras pas faire ceci, tu pourras pas faire cela ». Et puis si tu fais pas telle taille, tu peux pas être mannequin et tel poids.
Avec certaines réalités parfois d'ailleurs.
Oui, mais qui sont bousculées. Donc moi, ce que je dirais. Qui sont bousculées. Et donc j'ai trouvé ma réponse à ta question. J'inviterais les gens à utiliser la valeur d'exemple. Et donc de se dire ah oui, mais tiens, elle a fait ça et elle a réussi à aller vers ce chemin vers lequel je voudrais tendre. Et en fait, c'est possible. C'est l'univers des possibles. C'est elle est spationaute, elle est mannequin et elle a des formes, elle est pilote de ligne, il est sumo, il est ce que je voudrais être. En fait, il y a des gens qui l'ont fait. Donc je pense que la valeur de l'exemple, c'est ce qui peut...
ouvrir le champ des possibles.
Tout à fait. Un jour, j'ai vu un mec qui marchait bien avec une prothèse. Un jour, dans mon centre de rééducation, il y a un mec qui m'a dit « Mais attends, pour faire demi-tour, il faut que tu fasses comme ça. » Ou bien le prothésiste m'a dit « Lui, il est comme toi. » Alors je dis quoi, lui il est comme moi, il est vétérinaire. Il me dit non, il est amputé. Alors je dis ah oui, bah, il est amputé tibial, sous le genou. Il me dit non, il est amputé fémoral. Je dis mais non, c'est pas possible, il marche trop bien. Donc j'ai chopé le gars et je lui dis apprends-moi. Tu es ma référence, tu es mon exemple. Et je pense qu'on peut
apprendre des meilleurs.
Apprendre
aussi,
des meilleurs, ouais. Des meilleurs ou des repères en tout cas, repères.
Ouais.
Des repères. Et c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Moi j'avais pas vu cette photo là, que t'as publiée. Il y a pas longtemps où tu dis moi avant et
où je suis très maigre
et voilà et je pense que aujourd'hui selon les repères il y en a qui vont dire et peut-être c'est ton cas ben ça c'était pas joli et puis ça c'est très joli
et bon mon but n'étant pas d'être joli finalement
non,
ça m'est égal
même,
mais
même,
je sais non mais je le précise t'as raison il y aura du jugement dans tous les cas entre 2012 et 2023 comment est-ce que tu progresses outre
alors
par
le...
l'entraînement.
Je m'enrichis de ce que font les autres. Pareil, l'exemple. Comment les autres travaillent, comment ils jouent, comment... Le tennis a beaucoup évolué, le tennis et le tennis fauteuil. Donc, on est en permanence en train de chercher, enfin en tout cas moi, une évolution et parfois une révolution. J'ai fait une révolution sur mon fauteuil, puisque au lieu de jouer assis, comme tout le monde, je joue à genoux. Et ça, c'est une particularité qui est liée aussi à mes travaux de recherche avec les... En tout cas, aux travaux de recherche des chercheurs des arts et métiers et de deux boîtes françaises qui ont décidé de faire mon fauteuil roulant, dont un fabricant de roues de vélo français, spécialiste du carbone, qui s'appelle Corima, qui a dit « Ok, on va te faire des roues pour ton fauteuil. » Et puis par la suite, comme c'est fantastique ce qui a été fait, on va aussi faire ton châssis. Donc on a vraiment vécu une aventure ensemble pour construire ce fauteuil qui fait penser... qui a été réalisé à partir d'une page blanche. C'est-à-dire que par le passé, tous les athlètes ont réfléchi à une pratique à partir de leur fauteuil de ville. Donc ils sont paraplégiques, ils sont en fauteuil roulant, et puis ils veulent jouer au tennis, donc ils arrivent avec leur fauteuil de ville, et puis ils se disent « Ah bah tiens, je tourne pas bien à gauche, je tourne pas bien à droite, je vais incliner les roues. » Ça s'appelle le carrossage, ils ont développé ça. Après, ils se basculent en arrière pour servir, et ils se disent « Ah bah je tombe, on va mettre une roulette anti-bascule. » Et puis petit à petit, c'est l'amélioration du fauteuil. Moi, je fais l'inverse. Je vais voir les chercheurs. J'écoute beaucoup de gens qui sont autour de l'univers du cyclisme parce que les cyclistes écoutent leur vélo. Encore le son. Et tu as un son parfait, une mécanique parfaite que tu es capable d'entendre. Et donc, je prends des infos. Et ensuite, je vais voir les chercheurs et je leur dis, je voudrais faire un coup droit comme ça. Je voudrais faire un revers comme ça. Donc, c'est-à-dire un coup droit et un revers comme quand j'étais plus jeune et que je jouais au tennis. Est-ce que vous pourriez me faire rouler? Et donc, ils partent d'un postulat qui est complètement différent, en disant quel est le mouvement idéal. Et de ce mouvement idéal debout, on va définir le mouvement idéal dans une position qui va lui permettre de rouler. Et ça, c'est à genoux. Mmh. Donc voilà ce qu'on a fait, ça c'est une amélioration technique. Après, il y a des améliorations sur le court, sur ta façon de jouer, sur ta façon d'appréhender les matchs, sur ton détachement aussi, de se dire voilà, j'ai gagné 3 fois les Jeux Paralympiques en double et en même temps le monde s'est pas arrêté de tourner et la vie continue et puis les années passent et puis il y a des gens qui font des trucs
de ouf.
Je pensais aux attentats, ouais, non, mais je pensais aux attentats, tu vois, il y a des trucs, je savais pas quel était le terme, mais t'as des vies qui s'interrompent et puis des trucs de ouf, bien sûr, ouais. Profitons de ce que nous avons.
C'est quoi ton, même si t'as pas de rêve numérique, tu vois, quel est ton objectif maintenant? Maintenant que tu as gagné les Grands Chelems, maintenant que tu as gagné les JO, maintenant que... Tu vois, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Que ça se termine le plus tard possible, en fait, ce que je dis. Moi, c'est... je prends énormément de plaisir à ce que je fais. Donc, tant que je ne suis pas blessé et que je reste compétitif, on parle des Jeux de Paris, là, mais les prochains sont à Los Angeles et moi, j'ai Brisbane en tête. Et pendant toute cette période-là, j'adore l'Australie. Pendant toute cette période-là, il y a tous les tournois du Grand Chelem. Le circuit est magnifique. J'ai un rêve associé aussi. J'ai un rêve. Je pense qu'on pourrait imaginer des sports qu'on pourrait pratiquer tous ensemble. Et plutôt que d'avoir des catégories et des subdivisions, comme il y a beaucoup dans les sports paralympiques, on pourrait choisir une discipline, pourquoi pas le tennis en fauteuil roulant, qui est le sport que je connais le mieux, on travaille sur le sujet, et de dire, si tu t'assieds, tu viens jouer avec nous. On joue ensemble. Et on ne dit pas, il faut avoir une différence pour jouer. Qui que tu sois, viens comme tu es et amusons-nous ensemble. Et ça, je pense que c'est une vraie révolution pour le monde parce que ça pourrait être mon idée. Hein, c'est un plan Marshall et c'est utopique, ce sera peut-être dans 50 ans. Mais je me dis que ça pourrait être un sport pratiqué par tous qui serait le premier sport en fauteuil roulant candidat aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas aux Jeux Olympiques s'il est pratiqué par tous.
C'est vrai. Il faut, pour avoir un rêve... qui soit assez challengeant pour tu vois, te donner aussi la rage, l'envie de te dépasser pour l'atteindre. Je pense que si les rêves sont trop faciles à atteindre, on peut vite atteindre le stade dont tu as parlé, à savoir le manque de sens, de c'est bon, on l'a atteint, maintenant on fait quoi?
Ouais.
Donc autant viser la lune pour tomber dans les étoiles.
Exactement.
De quel joueur t'as le plus appris?
J'ai appris des confrontations. Pas des joueurs, mais des confrontations. De voir comment les rivalités faisaient s'améliorer les différents joueurs, les uns les autres.
Donc tu te compares jamais à un jeu? Non. Ah, c'est fou.
Hein. Je suis pas un fan de qui que ce soit,
ouais.
Mais en revanche, j'adore les voir l'un contre l'autre, les uns contre les autres.
Donc tu arrives dans la vie de manière générale à pas te comparer. Ce qui est dur, je trouve, pour un champion, parce qu'en plus, tu as un classement, donc c'est presque concret.
Oui, mais après c'est mon match. Je fais mon match pour essayer d'être meilleur, mais en fait d'être meilleur que moi-même. Enfin, je sais pas, my better self. Que c'est pas, il y a pas de. Je dirais pas qu'il y a que toi qui peux le comprendre, mais forcément toi c'est la même approche. C'est comment toi tu vas être meilleur et comment tes rivaux t'aident à t'améliorer. Ce qu'on disait au début. Et cette histoire de numéro, on va tous finir au même endroit. Donc.
J'ai l'impression que...
Parfois, je suis un peu cynique et un peu triste.
Non, mais c'est très lucide. C'est très lucide et...
On va finir dans les étoiles, tu vois, c'est la même.
C'est ça, tant mieux. En vrai, c'est, je trouve, hyper bienveillant et hyper inspirant. De quoi est-ce que t'es le plus fier, au fond? Parce que dans ton discours, j'entends tellement de relativisme qu'on pourrait se dire que parfois, tu en oublies. Enfin, tu vois, tu dis, j'ai gagné 3 jeux, il n'y a pas. La Terre continue à tourner. Ouais, oui. Mais t'as gagné 3 putains de jeux.
Paralympiques. Ouais. Ça veut dire qu'au début, il faut quand même qu'il se soit passé un truc. C'est marrant parce que la fierté est un mot que j'utilise à nouveau depuis peu, mais que je n'utilisais pas parce que je pensais que être fier, c'était pas un bon sentiment, c'était pas une bonne approche. Donc, je suis à nouveau dans le plaisir. Mais de quoi je serais le plus fier? C'est compliqué parce que C'est comme quand on te demande ton meilleur souvenir, moi je me dis ce sera le suivant, c'est le prochain, c'est le prochain. Sinon, en fait, si tu es fier du passé, tu vas rester dans le passé.
Tu penses ?
Bah oui, puisque t'as mis un point sur quelque chose qui date d'hier. Donc, pourtant, j'ai quelques années de plus.
Je sais que j'arrive à dire que je suis fier d'avoir écrit un livre.
Oui.
Sans me dire que je m'enferme dans le passé, tu vois, je pense au prochain et tout, mais...
Oui, d'accord, oui. Donc, quand je suis plus fier à ce jour, bah, je vais te dire alors d'avoir compris ce jour-là que la vie ne tenait qu'à un fil. Et c'est ça qui a construit ma philosophie par la suite, de se dire, bah, soit c'est vital, auquel cas c'est important, soit ça ne l'est pas. Ça, je suis assez heureux d'avoir pu me rendre compte de ça à 25 ans. Voilà,
ouais.
C'est ça le truc.
Ouais, c'est vrai.
Parce que c'est certainement une forme de sagesse qu'on développe en se rapprochant de la fin. Et donc la fin, c'est plutôt à 75, 80, que, enfin aujourd'hui sur l'espérance de vie, qu'à 25. Mais si ça t'arrive à 25, c'est une chance. Parce que là, tu dis, ah ouais, en fait, tout s'arrête comme ça. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est un vrai cadeau.
J'ai quelques petites dernières questions pour toi, Stéphane. S'il y avait une ressource, que ce soit un podcast, que ce soit un film, que ce soit un livre, que tu aurais à nous recommander, qu'est-ce que ce serait ?
Alors, dans mon univers, il y a un truc qui est une bible, qui n'est pas forcément connue, mais en français, c'est le jeu intérieur, et ça s'appelle The Inner Game, et c'est comment la personne a cette petite mélodie interne de dialogue permanent. Et en fait, c'est valable pour tout, hein. c'est pour la vie, donc je pense que c'est assez intéressant. C'est ce que tu es en train de te dire à toi-même. Et comment tu joues avec ça et comment tu peux soit t'en détacher, soit travailler avec et en tout cas t'améliorer par rapport à ça. Et ça s'appelle the inner game, le jeu intérieur.
Si demain, tu devais ne jamais revoir tes enfants et t'avais un petit carnet où tu pouvais leur écrire...
Tu vas me faire pleurer.
Trois enseignements et c'est tout ce qu'ils garderaient de toi. Qu'est-ce que tu leur écrirais ?
Faites-le pour vous, toujours. Sachez que tout ce que vous faites, faites-le pour vous. N'écoutez pas les noms. Parce que, en fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que nos parcours sont construits autour des noms et des impossibles. Oui, dans notre vie, fais pas ci, fais pas ça. Et de toute façon, j'ai un truc, désolé. Hein, mais quand j'étais en classe de terminale, où je savais pas encore trop ce que j'allais faire, et finalement j'ai suivi ma petite amie qui voulait être vétérinaire, mais ma conseillère d'orientation m'avait dit... Tu ne pourras pas rentrer en classe prépa parce que ma fille a essayé d'y rentrer et elle n'a pas réussi. Donc c'était un non. Quand j'étais en classe prépa, forcément auparavant, j'étais parmi les meilleurs élèves tout le temps, toute ma scolarité. Et le premier trimestre, j'ai reçu pour mon bulletin, parce que c'était très scolaire, les notes A, B, C, D, E. J'avais E et le commentaire, c'était pas la moindre étincelle d'espoir. Et donc le pas la moindre étincelle d'espoir de ma prof de bio... à qui j'ai écrit des années plus tard quand j'ai eu le concours pour la remercier en lui disant que ça avait été le coup de pied qui m'avait permis de me dire « Ah, mais elle me connaît pas, je vais lui montrer. » Donc ne pas écouter les noms, faites-le pour vous-même, n'écoutez pas les noms. Je leur ai toujours dit pour les métiers de demain, je regarde les pubs là qui disent qu'on ne connaît pas 85 ou 90% des métiers de demain, et c'est certainement le cas, je leur dis « Pensez toujours à faire quelque chose où vous occuperez des autres. Et si vous vous occupez des autres,
il y aura toujours
quelque chose à faire.
Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que ce serait ? Comment on peut la tourner aussi ? C'est avec qui t'aimerais dîner demain ?
Ah bah alors là, de toute façon, dîner demain, ça fait... nous sommes voisins. J'aimerais bien dîner avec Emmanuel et Brigitte.
Ok.
Voilà, bah voilà. Ouais.
Ils reviennent souvent.
Ouais. Ils reviennent souvent. Mais tu sais, en fait, c'est pas une idée qui vient de nulle part. C'est entre sportifs, il se trouve que ça a déjà été fait par un précédent. Et c'est un copain lutteur qui m'a raconté cette soirée assez magique où il était invité, non pas à l'Élysée, mais chez cet ancien président. Et je me suis dit, ah bah tiens, moi je suis voisin, je voudrais le faire avec les actuels. Ça me relie à ces histoires aussi de reconnaissance, de notoriété et de nous sommes tous humains. Et il m'est arrivé d'être proche de très grands noms et de me rendre compte qu'ils recherchaient la relation la plus simple, la plus désintéressée, l'échange classique et pas ce qui est difficile pour ces gens-là, c'est de finalement ne pas savoir qui les aime ou pourquoi on les aime. Peuvent pas savoir puisque la relation n'est pas forcément désintéressée. Donc ils sont un peu perdus. Ils ont beaucoup de cours autour d'eux, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Donc, je sais pas, je vais travailler. Un jour, je me suis retrouvé avec Zinedine Zidane et il y avait une queue pas possible et des gens qui voulaient absolument faire une photo ou lui parler. Et comme nous, on intervenait ensemble sur un plateau, il se trouve qu'on a été présenté et qu'on a parlé normalement et qu'on s'est retrouvé après l'intervention et il disait à son agent, non, mais attends, je parlais avec Stéphane, on fera ça tout à l'heure. Et c'est, peut-être que lui, il avait, son temps est si précieux que là, d'un seul coup, il avait un temps qui n'était pas compté. Disant, bon, bah ok.
J'ai trouvé quelqu'un qui me considère pour qui je suis voilà. Et pas pour ce que voilà, j'ai fait. Hyper puissant. Bon, écoute, je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
De prendre conscience qu'elle ne tient qu'à un fil. Quand tu prends conscience que ça ne tient qu'à un fil, je pense que tout est simplifié.
Merci beaucoup Stéphane, j'ai passé Louise. Un super bon moment avec toi. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent peut-être venir te voir jouer, où est-ce qu'on les redirige ?
joel@cosei.com
Je mettrai cette adresse email dans la description. Et bon, je mettrai aussi tes réseaux sociaux, comme ça on pourra te suivre de près. Et j'espère à très vite, Stéphane.
À très vite. Merci, Louise.
J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureux d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story @StéphaneOudet et @MyBetterSelf et envoyer un petit message à Stéphane si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.